Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Le point.
Bonjour à tous, bienvenue dans le tacle du lundi, le podcast du point qui parle de football et qui est diffusé un lundi. Et là, nous sommes heureux parce que nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde au Qatar. Alors le tac s'est mis sur son 2022, puisque la pièce est climatisée en hommage au stade climatisé. Donc il fait 10 degrés là, alors que dehors il fait 10 degrés. Mais on voulait marquer le coup avec autour de la table, pas mal d'émirs. L'émir Adrien Mathieu, bonjour.
Salut Florent, salut à tous.
8 buts.
Quel spectacle.
Autant que depuis le début de saison de Bordeaux, non?
Oui, bon, Bordeaux est assez bien, forcément c'est derrière où ça coince, mais c'est vrai que ça fait du bien en fait de mettre vraiment, on va le dire, une raclée, une petite nation, enfin on les respecte, et pour les respecter il faut qu'on joue à fond, et là on a joué à fond.
D'accord, donc 8-0 c'est respecter une nation.
Oui, je pense qu'il faut pas se cacher.
Ouais, ah bah, incroyable. Deuxième émir, Thomas Strasbourgeois-Muller, bonjour.
Bonjour Florent, bonjour à tous.
Mais vous n'êtes pas dans la VAR?
Eh non, pour une fois je sors de la camionnette, ça m'arrive.
Les Bahamas vous ont changé, Thomas, parce que Thomas était
au Bahamas
la semaine dernière avec Julien Remucci, qui est resté par contre.
Ouais, il continue le bronzage. Ouais.
Il est envoyé spécial aux Bahamas. Et dans la VAR, le Sochalien, l'émir d'Urgé, Emmanuel d'Urgé, bonjour.
Bonjour.
Tout va bien?
Tout va bien, ouais.
Alors samedi, nous étions au stade avec Thomas.
J'en reparlerai d'ailleurs.
On en reparlera. Et on s'est dit, la VAR, pour une fois, a bien fonctionné. C'est-à-dire des décisions rapides, c'était formidable.
Oui.
Oui, il n'y en avait pas besoin, quoi.
Vous n'étiez pas sur le coup.
Non, parce que
ils ont même annulé
le 9e but de l'équipe de France, c'est triste. Quand même.
C'est honteux.
Ouais.
C'est un scandale, on aurait pu ne pas se qualifier à cause de ce but. C'est un scandale. Vous connaissez le principe, alors je vais le rappeler, c'est un concept. Je rappelle que les scores sont absolument indécents. Indécents, on nous écoute worldwide, comme on dit. Et nous serons le podcast officiel du Qatar 2022. C'est signé.
Ah oui,
c'est bon.
Merci.
Donc le rappel du concept, chaque participant a une minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu, et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative, un carton jaune ou un carton rouge. Et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par tacler, ou plutôt par rendre hommage au Parc des Princes, qui est la vraie maison de l'équipe de France, la vraie maison des Bleus. Il faut arrêter de se rendre à Saint-Denis, dans ce stade de France froid, vide, qui sonne creux, où il n'y a pas d'ambiance. Nous étions donc au stade avec Thomas et nous avons vibré pour un France-Kazakhstan. Il y avait de la tension, même palpable, au bord du stade, avec des animations. On criait « Allez la France, allez la France !» Des familles sont venues, ils rigolent, ils se marrent, c'est pas sympa. Hein. Des familles sont venues, on criait, on supportait les Bleus, c'était magnifique, l'ambiance extraordinaire, 3 holla quand même, c'est pas mal. Et en fait, en vrai, sans blague, ce stade, c'est vraiment un stade de foot, un stade pour l'équipe de France. Alors, on a des mauvais souvenirs parce que France-Bulgarie, c'était au Parc des Princes. Mais voilà, mais ce stade sans la piste d'athlétisme, on est proche de la pelouse, il y a une sorte de tension avec les supporters, c'est génial. Laissons le Stade de France à Muse ou à des matchs de rugby, le rugby n'est pas un vrai sport, on peut le dire. Restons au Parc des Princes, bye bye le Stade de France. Adrien.
Mais ce qui est intéressant dans cette réflexion, c'est qu'à chaque fois que l'équipe de France se déplace au Parc des Princes, et même je me souviens au Vélodrome lors de la demi-finale de l'Euro 2016, il se passe un vrai truc, il y a une vraie communion avec le public, quelque chose qu'il n'y a pas au Stade de France. Il y a un seul match qui pour moi est vraiment sorti de l'ordinaire, c'était le fameux France-Ukraine, le barrage retour de 2013, où là vraiment il y avait une communion, mais tu l'as dit, stade assez impersonnel, qui par cet aspect gigantesque éloigne vraiment les joueurs, et tu as dit, la piste d'athlétisme, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. En Italie, tu vois, les stades comme à Rome, à Naples, j'ai l'impression qu'on est vraiment beaucoup trop loin. Et c'est vrai que j'espère que la FFF va avoir l'idée de pousser un peu plus loin en se disant, ce serait quand même pas mal de délocaliser tout simplement l'équipe de France parce que ça rapporte. Et tu l'as dit, en plus, la Marseillaise a joué quasiment a cappella, c'était fantastique. Donc oui, sortons un peu du Stade de France.
On rappelle que là, qu'en 2025, là, il y a des renégociations pour l'équipe de France, pour qu'elle joue au Stade de France ou pour qu'elle ne joue plus au Stade de France, ça va être intéressant.
Bah, j'espère justement, j'allais dire, que ça ira au bout cette affaire et que, effectivement, en tout cas, l'équipe de France, alors le Parc des Princes, j'imagine que c'est un peu naturel que ce soit ce stade-là qui soit éventuellement choisi. Mais ouais, j'espère que ça ira au bout parce qu'effectivement, le Stade de France, pour y être allé, je fais le comparatif. Hein. J'avais vu France-Irlande avant la Coupe du Monde. On peut se dire qu'il y a un peu d'enjeu, un peu d'entrain, une ferveur. Bon, il y a toujours un peu de ferveur. Hein. Ça fait longtemps, depuis 2010 quand même, que ça remonte un petit peu avec des enfants, comme tu le dis, avec des familles qui viennent voir les matchs. Mais ça sonne creux. Ça sonne creux, clairement. En plus, il n'avait plus des cordes. Ça n'aidait pas vraiment, disons, à l'ambiance. Mais non, je suis entièrement d'accord avec toi. Je ne peux même pas dresser aucun carton jaune, aucun tacle. Tu as entièrement raison.
Puis on sait que la fédération française aime les sous, quoi. On sait qu'il y a toujours cette histoire, par exemple, de faire la Coupe du Monde tous les deux ans qui trotte dans la tête de Noël Le Graët. Si on regarde les chiffres, avec le Parc des Princes, il y avait un bénéfice qui a été constaté, alors que si tu faisais ce France-Kazakhstan à Saint-Denis, tu étais déficitaire. Je crois que c'était de l'ordre de 2 millions d'euros de pertes, alors que au Parc des Princes, tu as gagné 400 000 euros. Donc c'est aussi, je pense, une réflexion à prendre en compte, parce que voilà, si on veut que l'équipe de France soit aussi un objet financier, parce qu'apparemment c'est une obsession, voilà, on peut se concentrer là-dessus.
Non, pour le rugby, ça va être un gouffre, non, du coup.
Ah, j'imagine, oui.
Non, mais le Stade de France, c'est bien pour les grandes compétitions internationales où il y a toutes les nationalités qui viennent pour supporter, mais les matchs amicaux de qualif, quand même, le Parc des Princes permet une communion et permet en plus de remplir plus facilement qu'un Stade de France, que vaut mieux avoir 45 000 personnes que 60 000 dans un stade qui sonne creux.
Et puis surtout, tu ne l'as pas dit, mais tu sais, dans Paris. Alors c'est un peu facile, moi j'habite dans le 15e arrondissement, je suis plutôt heureux, plutôt chanceux de ce point de vue-là. Mais aller aussi loin, en dehors de Paris, pour aller voir un match de l'équipe de France, bah, c'est un frein.
Pas de mépris pour la province. Merci Thomas.
La banlieue.
La VAR.
La VAR n'en pense rien.
Merci pour cette intervention brillante, la VAR.
Oui, la circulation.
Thomas, oui. C'est à vous. Alors là, c'est votre premier tacle, oui. Donc un peu d'indulgence.
Oui, soyez gentil avec moi. En tout cas, cher Florent, j'ai pensé à toi aujourd'hui. J'ai aujourd'hui en moi un petit air d'Arsène Wenger, qui, je suis sûr, va te faire vibrer tes petites oreilles conservatrices. Alors oui, j'ai vibré samedi soir, comme tu l'as dit, au Parc des Princes, en voyant 8 buts. Incroyable. La France va sûrement conserver son titre, cette fois, c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai frissonné quand je vois Kylian Mbappé briser des records avec toujours autant de précocité, quand j'entends dire qu'il sera un modèle pour le gosse qui aura regardé cette immense France-Kazakhstan. La France n'attendait vraiment que cela pour croire au fond de jeu que proposera Didier Deschamps au Mondial, évidemment. Non, soyons sérieux, j'y viens. Arrêtons cette mascarade des matchs de qualification, ces innombrables trêves internationales, des trêves qui brisent littéralement notre Ligue 1 en morceaux. Léo Messi est en décalage horaire permanent, Neymar risque de se blesser à chaque fois, la dynamique pour le maintien de Strasbourg est sans cesse interrompue, et ça c'est le plus terrible je crois. La Ligue des Talents mérite mieux que ça, et les téléspectateurs aussi. Arrêtons ces matchs sans enjeu pour les grands pays, ceux qu'on veut quoi qu'il arrive voir à la Coupe du Monde, on est d'accord. Et organisons un grand championnat de seconde zone, selon l'indice UEFA, pour que Malte continue d'aller s'étriper tranquillement avec les îles Féroé, dans leur coin, tranquillement et en silence. Et si le passage à 48 équipes facilitait une telle entreprise wengerienne? Je vous pose la question. Alors les grands joueurs diraient merci et pourraient aussi arrêter de se plaindre de leur rythme indécent de millionnaire. Et que dire du risque imminent de ne pas voir le Portugal à la Coupe du Monde? De ne pas y voir Cristiano Ronaldo figurer pour un dernier mondial? On en rêve tous, on veut tous voir ça. Comme on a été très déçus de ne pas voir l'Italie au dernier mondial. A minima, messieurs, que vous soyez wengeristes ou non, Florent, les autres, avouez-moi seulement que ceci n'est pas très sérieux.
Alors, j'ai un appel de Gianni Infantino qui me demande ton numéro de téléphone. Voilà, je crois
mon adresse,
que,
c'est ça.
C'est ça. Je crois qu'il est impressionné. Adrien.
Sur le principe des éliminatoires, je trouve que ça a toujours été une bonne chose parce que c'est le seul endroit où c'est David contre Goliath. C'est la beauté du football. C'est le petit qui peut vraiment rencontrer le gros. Et la Ligue des Nations a éloigné ça. C'est-à-dire que les puissants mangent entre eux et on laisse voilà, le petit peuple en bas. Moi, ça me dérange un petit peu parce que vraiment, c'est la beauté de ces éliminatoires. Alors, certes, il y a des équipes qui prennent toujours des raclés, mais on a pu voir, par exemple, l'Arménie faire un beau parcours. On a pu voir, voilà, Andorre, Saint-Marin réaliser des performances intéressantes. Par contre, la vraie réflexion, c'est forcément sur le rythme de ces trêves internationales. Aujourd'hui, on a le sentiment que le Paris Saint-Germain sert à préparer ces Sud-Américains à être en forme pour leurs éliminatoires. Ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on manque vraiment de continuité. Dans le discours moderne d'Arsène Wenger, il y a beaucoup de choses que je rejette personnellement. Mais l'idée de peut-être trouver une nouvelle formule pour les éliminatoires, plus, on va dire, condenser les matchs, les rapprocher et éviter voilà, vraiment cette coupure tous les mois, ça peut être une bonne chose. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais voilà, c'est vrai qu'avec la Coupe du Monde 2022 qui arrive dans un an, le décalage des matchs, l'espèce de suspense autour d'une Coupe du Monde tous les deux ans, la Coupe du Monde des clubs à 24, je crois, il y a aussi ça qui va arriver, donc il y a de quoi être inquiet.
Moi, je suis en désaccord total avec toi, Thomas. Un beau carton jaune qui aurait pu virer rouge.
Ouais, quand même.
Mais l'équipe de France, c'est un feuilleton. Donc, s'il n'y a plus les matchs éliminatoires, quand est-ce qu'on
retrouve notre
feuilleton ?
Mais il y a la Ligue des Nations.
Non, mais
la Ligue des Nations a un vrai enjeu. Là, ça n'a aucun sens, ces matchs.
C'est pas possible. C'est pas possible. Et Adrien a raison. C'est le côté David contre Goliath. L'Italie qui peut être barragiste ce soir parce qu'ils ont mal géré leur match contre l'Irlande, etc. etc. C'est la beauté du foot, c'est de voir pas uniquement des chocs, parce que si on voit que des chocs, après on se lasse des chocs. Et donc, si on
t'as vraiment envie de revoir des France-Kazakhstan comme
mais
ça.
C'est incroyable parce que je vais me révéler du off, mais le petit enfant à côté de moi qui s'est levé 8 fois, c'était pas moi, c'était Thomas qui était comme un fou qui a crié kiki kiki kiki. Non, mais il faut peut-être les revoir, mais c'est ce côté on fait un mois. Enfin, un mois
non,
de championnat,
limite,
et puis après, on se retrouve.
Milieu,
et
évidemment.
Puis, ça permet aussi de tester des choses, de gérer des automatismes. L'équipe de France ne se voit plus. Enfin, les rassemblements de l'équipe de France sont de plus en plus rares. Lors de la Coupe du Monde, je crois que c'est une semaine. C'est-à-dire que les joueurs internationaux ne seront libérés qu'une semaine avant le début de la compétition. Si on ne se retrouve pas tous les mois, on n'a plus d'automatisme et on n'a plus une équipe. On a une succession d'individualités. Donc moi, ça me pose problème.
Et d'ailleurs, il y aura assez peu de rassemblements de l'équipe de France avant la Coupe du Monde, je crois.
Tout à fait. Et on va voir, ça va être un désastre, quoi.
Ça va être compliqué. Didier Deschamps, d'ailleurs, l'avait dit. En 2014, il avait quasiment un mois pour préparer la compétition. Et ça a fondu, ce rythme-là. J'ai l'impression, d'ailleurs, qu'il était content, finalement, de jouer samedi. Et de se dire, j'ai enfin une semaine pour préparer mon truc. Parce que c'est vrai que des fois, il a fait ça dans l'urgence. Et ça a pu se ressentir sur certaines tactiques, certaines compos. Là, on sent vraiment qu'il y a une vraie réflexion autour du jeu de l'équipe de France. Je pense qu'on y viendra après. Mais je pense que ça lui fait du bien, et tu l'as dit, sur ce rythme, cette cadence infernale, je pense que la Coupe du Monde 2022 va laisser beaucoup de traces.
Alors après, moi, je voudrais savoir comment vont se passer les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, puisqu'il y a 48 équipes.
Donc, j'ai un peu regardé, il y a 16 équipes de la zone UEFA, et derrière, c'est des groupes de 3, j'ai appris ça, dans la Coupe du Monde.
Donc le Kazakhstan sera peut-être en Coupe du Monde.
Bah, peut-être, ouais. Ils ont une chance de plus, en tout cas. Qui sait ?
Ah là, vous rejoignez donc Arsène
Wenger. Ouais, mais après, c'est mon côté, c'est ma fibre. Hein,
oui, c'est Thomas Strasbourgeois-Müller, on
vrai,
le rappelle.
C'est pas pour rien.
Je crois que la VAR va amener
un peu de raison
dans ce monde de bruit.
Non, mais moi, je prends aucun plaisir à regarder des France-Kazakhstan, clairement, je comprends pas. Et d'un autre côté, vos arguments, Florent et Adrien, sont bons, c'est-à-dire qu'il faut en effet des occasions de voir des petits pays se frotter à des gros. Il faut des occasions de se retrouver, pas sans aller jusqu'à la beauté un peu niaise du feuilleton de l'équipe de France. Il faut en tout cas des occasions de mettre en place stratégiquement, j'imagine, des choses. Mais je crois que c'est Thomas Müller qui s'en était plaint il y a un ou deux ans, ou peut-être même un peu plus, de ces matchs un peu ridicules. Voilà. Est-ce que vraiment les Kazakhs ont pris plaisir ? Alors, on dit que c'est respecter ces petites équipes, et d'un autre côté, si vraiment c'est des sportifs professionnels avec l'esprit de compétition, je suis pas sûr qu'ils prennent plaisir à en prendre 9. Donc voilà.
Là, ils en ont pris 8, donc ça va.
Oui, mais c'est le Liechtenstein qui en a pris 9, je crois, récemment. Donc voilà, est-ce qu'ils prennent vraiment du plaisir à ça ? Je sais pas. Je pense qu'il faudrait en tout cas essayer peut-être cette idée de 2 divisions. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre que des gros, mais des équipes qui tiennent un peu déjà plus la route, comme la Serbie, par exemple, qui a surpris le Portugal hier. Ça peut, et même peut-être pour l'équipe de France, ça ne fera que du bien, puisque ça permet aussi de se confronter à des vraies équipes.
On voit l'amoureux des vaches, Emmanuel, c'est-à-dire qu'il a fait une réponse de Normand. Tout le monde a raison, en fait.
Exactement. Et, par contre, on aurait pu aussi se poser quand même la question du Kazakhstan.
En Europe.
Au sein de l'UEFA, quoi.
C'est un mystère. Ça.
Encore.
C'est coupé, c'est la censure. Merci, Emmanuel. Merci, Lavar. Merci à tous. Adrien, on parlait du Portugal. Justement, toi, tu vas tacler nos amis portugais.
Ah oui, un gros, gros tacle envers Fernando Santos. Et en même temps, un hommage à Didier Deschamps. Parce que qu'est-ce qu'être pragmatique dans le football ? C'est mettre tout en œuvre pour gagner, c'est s'adapter. Et je pense que notre coach l'a fait, contrairement à celui du Portugal. Didier Deschamps s'est rendu compte durant l'Euro qu'il y avait des erreurs, notamment sur le plan tactique, sur le choix des joueurs. Il a pu se poser, il a pris les bons joueurs, notamment Théo Hernandez à gauche, Jules Koundé installé dans l'axe, la réflexion autour de Kingsley Coman en tant que piston droit. Et on regarde l'équipe portugaise, depuis la victoire à l'Euro, leur victoire en Ligue des Nations, c'est un naufrage permanent. C'est-à-dire qu'on a une équipe, peut-être la plus belle génération du football portugais, avec les Figo, Pauleta, Deco, Maniche. Et au final, on a une équipe qui n'avance pas. Cristiano Ronaldo qui est voué à être le sauveur infini comme à Manchester United. Sauf que là, bah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le football de sélection appelle d'autres ressorts. Et on l'a vu hier contre la Serbie. C'est que voilà, la Serbie s'est baladée à Lisbonne, a vraiment posé un plan de jeu efficace, à aller chercher le Portugal haut. Et le Portugal s'est contenté de défendre, c'est dire, alors qu'il y a vraiment des arguments au-delà de Cristiano, il y a Bruno Fernandes, il y a João Félix, il y a Renato Sanchez qui a été très bon d'ailleurs et qui a été sorti avant, je crois, vers la 60e, 65e, un choix étonnant. Du coup, on est devant un grand du football mondial en danger, on se le disait, ça rappelle un peu l'Italie 2017, sauf que nos amis italiens n'avaient pas l'OVNI et Cristiano Ronaldo pour les sortir du pétrin. Mais voilà, c'est vraiment un tacle, on va dire, pour ces sélectionneurs qui sont un peu d'un autre temps, ce football un peu d'épicier, calculateur, où on cherche avant tout à marquer un but de plus que l'adversaire et à verrouiller. Mais non, hier soir, à Lisbonne, ce n'est pas passé, j'ai envie de dire, tant mieux pour le football.
Thomas, tant mieux, c'est un... Bah, je ne vais pas me contredire sur mon tacle. Ça reste un peu dommage quand même qu'il y ait un risque de ne pas voir... une dernière Coupe du Monde avec Cristiano Ronaldo et pas une Coupe du Monde sans le Portugal. Moi, j'en reste à ça. Je préfère voir le Portugal que la Serbie. Et encore, la Serbie, c'est pas, pour moi, c'est pas une équipe de seconde. Non, je la compare pas à Malte ni aux îles Féroé. Mais voilà, je trouve ça triste. Et à la limite, je reste quand même d'accord avec toi. Si les mecs jouent mal et qu'ils sont sanctionnés, ben, quelque part, bien fait pour eux. Voilà, le pragmatisme à la Deschamps, à l'entraîneur du Portugal, ou le sélectionneur du Portugal, et ben, tant pis pour toi. T'as joué, t'as perdu. Voilà.
Moi, je prendrais le contre-pied, Adrien. Moi, je pense que la faute du sélectionneur portugais, c'est de sélectionner encore Cristiano Ronaldo, qui est un boulet pour chaque équipe depuis son passage à la Juve. C'est-à-dire qu'il est très bon, il est très fort, sauf qu'il devient le centre de l'équipe, et donc ce n'est plus une équipe, c'est l'équipe de Cristiano Ronaldo. Et on a vu le problème à la Juve, on a vu le problème, on le voit actuellement à Manchester United, et on le voit au Portugal, c'est-à-dire attendre des monts et merveilles tout le temps de Cristiano Ronaldo, bah, à un moment, ça ne marche plus. Et alors que, tu l'as dit très justement, il y a une superbe génération au Portugal, faut aussi faire confiance à ces nouveaux joueurs et dire à Cristiano, bah, tu peux être un super sub, tu peux rentrer quand la patrie est en danger, mais on va essayer de construire sans toi, parce que le problème, c'est que tout le monde te cherche et tu ne fais plus les différences comme avant. Moi, c'est ça qui me gêne, c'est-à-dire que les Messi, les Cristiano Ronaldo et même les Zlatan Ibrahimovic, bah, au bout d'un moment, l'individualité, c'était bien quand ils étaient très 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 forts. Là, ils sont un peu moins forts, sauf qu'on continue de les considérer comme des joueurs très forts. Donc ça annihile l'esprit collectif.
Ah, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Après, vraiment, hier, contre la Serbie, c'était marquant. C'est-à-dire que j'ai vu plein de joueurs portugais partir seuls contre quatre défenseurs serbes, se faire prendre la balle. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun esprit collectif. Et même Cristiano, qui était un peu dans la surface, il était paumé, il était perdu. Et j'ai l'impression que les joueurs portugais ne le cherchaient pas. C'est-à-dire qu'ils essayaient de se débrouiller tant bien que mal avec le ballon et qu'ils se le faisaient prendre à volonté. Je pense qu'on peut construire autour de Cristiano encore un ou deux ans. C'est vrai qu'après, peut-être la question va se poser. On peut le voir avec Zlatan Ibrahimovic qui peut capter vraiment cette attention-là et qui ne va pas faire l'effort et t'as le sentiment de jouer à 10 contre 11. Mais on peut le voir à Manchester United, il a toujours cette rage, cette fougue, comme on dit, cette espèce de storytelling incroyable dans les fins de match. Même il l'a fait avec la sélection portugaise, je crois que c'était contre l'Irlande où il a mis un doublé dans le temps additionnel quasiment. Moi, je pense que vraiment le problème est beaucoup plus profond au Portugal que juste le cas Cristiano. Et oui, on l'a dit, ça sera dommage d'avoir une Coupe du Monde sans Cristiano, mais ça fait aussi partie de la méritocratie du football. On peut pas être toujours.
Moi, j'aime les privilèges, moi. C'est
voilà. Très ancien régime.
Hein. On peut pas toujours être dans cette espèce d'esprit Super League, les puissants ensemble et qui se régalent avec le festin. Non, si tu n'as pas mérité ta place sur le terrain, oust.
Oust. Voilà. C'est bien dit, hein, Emmanuel. Oust.
Non, c'est une bonne nouvelle pour les barrages aussi, parce qu'après tout, si c'est pour avoir des barrages entre que des équipes de seconde zone, c'est toujours bien d'avoir une ou deux grosses équipes en barrage. Et ça veut aussi dire que ce système de barrage est fait aussi pour qu'on ait le moins de déchets possible dans les grosses équipes et que même quand elles se ratent en phase éliminatoire, elles aient une nouvelle chance. Tout ça est très hypocrite au fond.
Est-ce qu'on peut avoir, alors là je m'adresse à la seule personne qui connaît le foot là, autour de la table, donc Adrien, est-ce qu'on peut avoir un barrage Italie-Portugal où ce n'est pas possible parce qu'il y a des têtes de série?
Je crois qu'il y a des têtes de série. Le système des barrages est assez alambiqué. Hein. C'est que tu auras des demi-finales puis des finales de barrage.
Ah, c'est nouveau ça.
Ah oui, c'est la petite surprise que j'ai découvert hier en me disant, bah, tiens, finalement contre qui le Portugal peut tomber.
Ça va être Portugal, en fait, Irlande du Nord.
Voilà, tu seras tête de série selon ton nombre de points que tu as obtenu lors de ton groupe de qualification et le Portugal sera assez haut, je pense, comme l'Italie. Donc normalement pour le Portugal ça pourrait être je crois que c'est la Macédoine du Nord voire l'Écosse.
Oui, ça devrait. Ah, l'Écosse, c'est compliqué quand même.
L'Écosse, faut y aller. Hein,
c'est pas forcément facile, c'est un peu piège.
David Trezeguet, si tu nous regardes, qui avait marqué un super but en Écosse, oui. Me semble-t-il.
C'est... Attends, c'est pas Thierry.
Je crois que c'est David Trezeguet.
Il y a eu le but contre l'Irlande de...
Ah oui, de...
Ça, c'est la mimine, ça. C'est la main.
Non, tu sais, à l'aller, c'est, ouais. Je crois que c'est Henri qui.
Oui, peut-être, Oui, c'est au Stade de France.
Et je crois qu'en 2009, c'est Anelka. Je crois qu'on a deux fois brillé contre cette équipe irlandaise. Ça, tu vois, les barrages pour l'équipe de France, ça rappelle les souvenirs.
Ah oui, ça rappelle l'Ukraine. Non, mais quand tu gagnes, ça va, c'est toujours agréable. Après, quand tu te fais avoir...
Je pense que le jour où ça nous arrive, c'est la fin du monde.
Bon, finalement, France-Bulgarie, c'était presque ça. Non, c'est un barrage qui a mal tourné, presque.
Mais c'est ça. Mais c'est vrai que hier, le but de Mitrovic avait des allures de Kostadinov pour les Portugais.
Tout à fait.
Vraiment, au bout d'une domination
On coupera Trezeguet parce que ce n'est pas Trezeguet.
Pas...
On a essayé de meubler tant que bien que mal.
Voilà, merci. J'ai vérifié. Voilà, ça
il va être long ce podcast.
Ça n'a rien à voir. Aucun lien fils unique. C'est le moment.
Deux minutes de bonheur en plus.
Le prono. Alors, bon, comme a dit Thomas, on s'en fout des éliminatoires. Oui, revenons à la Ligue 1.
Voilà,
et dimanche, c'est l'Olympico. Des vrais matchs. Avec un vrai stade, tout ça, des vrais joueurs, des vrais entraîneurs, etc. etc. Donc, vos pronostics, Emmanuel.
2-1.
Pour
2-1.
Pour
2-1 pour l'Olympique de Marseille.
Oh là 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 là. Thomas.
Pardon, c'est à Marseille ou à Lyon ?
C'est à Lyon.
C'est à Lyon ?
1-2, du coup.
ce podcast s'est préparé, comme vous pouvez l'entendre.
Pardon, je suis encore dans ma trêve. Hein, c'est terrible, la trêve internationale, ça me tue. Je vais dire 2-1 pour Lyon aussi, ouais.
Ouais. D'accord, donc il a changé
meilleure forme. Ouais. Donc 2-1, ouais. L'inverse. Ouais.
Deux équipes qui ont un peu de mal en ce moment à défendre, qui encaissent pas mal, même si Marseille tient mieux la route que Lyon. Mais je vois bien un match nul assez spectaculaire, 2 partout, voire 3 partout.
Et c'est vrai que Paqueta il va revenir fatigué, forcément.
Voilà. Ah oui,
c'est ça qui va arriver.
Ça va être dur.
Ça fausse les résultats, hein. C'est terrible.
Moi je vais dire 4-2 pour Lyon. Voilà, beaucoup de buts. Et je vous rappelle que la semaine dernière au podcast, j'avais dit que la France allait exploser le Kazakhstan avec un triplé
c'était
de,
un gros risque, ça,
de Benzema.
J'avais dit 5-1, je crois.
5-1, il y a eu 8 buts.
Ouais, donc, 5 plus 1, 8.
Donc, t'as parié au moins. J'ai parié, j'ai beaucoup d'argent. D'ailleurs, quitte le podcast. Merci à tous, vous étiez très en forme, très très bon. Bravo.
Est-ce que je pourrais sortir de ma camionnette de temps en temps ?
Oui, vous pouvez sortir de votre camionnette. Vous êtes très bon. Vous n'êtes pas
un peu de mauvaise foi quand même.
Vous n'êtes pas le Clément Turpin du podcast. Donc ça va, on vous fait sortir de la camionnette.
Merci.
Quand on sort de la camionnette, parfois, enfin voilà. Vous êtes un bon client.
Merci.
Donc vous pouvez sortir de la camionnette. Vous l'avez pas. Bon client.
Non, pas
de camionnette.
Ah oui, c'est sordide.
Voilà. Merci à tous. Et comme disait l'autre.
Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir.
Le point.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.